Voilà, bonsoir d'être courageux de venir un dimanche soir, parce que c'est pas évident, pour approfondir ce mystère de l'adoration eucharistique. Donc vous avez eu déjà, certains d'entre vous, j'imagine, des enseignements. Certains d'entre vous, la plupart, j'espère, viennent adorer pendant la semaine. Et peut-être certains d'entre vous ne le font pas encore, voilà, donc se posent plein de questions, voilà. Alors on n'a jamais fini, en fin de compte, de comprendre ce mystère, et je pense que on est encore très loin d'avoir dévoilé, c'est Nicolas Butet, qui est fondateur de Karlstein, qui nous disait ça, qu'on était vraiment qu'au début, voilà. Donc il y a beaucoup encore à faire, et tant mieux. Et bien sûr, je dirais tout à l'heure, en allant chercher mes affaires du côté du presbytère, là où il y a la chapelle de la Transfiguration, je me disais, en voyant allumer la chapelle, je me disais, c'est eux qui ont choisi la meilleure part, d'une certaine manière. Donc en soi, tout ce que je vais vous dire, c'est pour aller devant Jésus. C'est lui qui va vous apprendre le mieux que quiconque ce que vous recherchez dans votre cœur, c'est-à-dire la lumière, la vérité, la sainteté, quoi. Mais quand même, je vais essayer tout de même de vous aider. Alors le fait d'avoir déjà quelques années d'expérience, c'est merveilleux, mais en même temps, je voudrais aborder ce soir le problème de la fidélité, parce qu'il faut tenir dans le temps. Et c'est souvent dans le temps que Dieu accorde le plus de grâces. Au début, on reçoit, on va dire, des grâces plutôt sensibles pour nous attirer. Le Seigneur nous donne beaucoup de choses agréables. Et puis, à un certain moment, il va faire en sorte de nous enlever ces grâces pour nous venir uniquement pour lui et que nous puissions vraiment montrer notre foi. Le Seigneur nous met un peu à l'épreuve, et nous avons vu dans l'Évangile aujourd'hui ce qu'on disait à table, le Seigneur qui est prêt à, une fois qu'on lui donne tout, il redonne tout de toute façon, mais en plus des persécutions. Donc nous avons, à travers l'adoration, nous rencontrons aussi le mystère de la croix, et il est bon de le rappeler, c'est pas tout facile comme on pourrait le croire. Donc il faut apprendre à découvrir cela, non pas avoir peur du tout, mais savoir que cela fait partie de la grâce eucharistique. Alors lors de la venue du père Florian Racine, bien sûr j'imagine qu'il vous a exposé les fondements de tout ça, et donc c'est important de comprendre la démarche de l'adoration déjà, lorsqu'on vient adorer le Seigneur. Il est ici, le tabernacle, enfin, Saint-Sacrement, donc exposé dans l'ostensoire. Eh bien, nous venons vivre une rencontre avec Dieu. Voilà, avec Dieu. Quand je dis Dieu, c'est donc la Trinité. Et donc, c'est déjà important de souligner cet aspect pour nous faire entrer dans la grâce de ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Et donc Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu est amour, et c'est cette entrée dans le mouvement que Dieu réalise à travers la Trinité, c'est-à-dire l'amour. Donc le but de venir adorer, c'est rentrer dans ce mystère d'amour, c'est participer avec Dieu à l'amour qui vit entre le Père, le Fils, et que les Saint-Esprit ne cessent de transmettre, de donner l'un à l'autre. Voilà. Et cet amour nous est donné à notre tour si nous avons le cœur ouvert, si nous l'accueillons humblement. Voilà. Alors déjà, c'est très important cette démarche. Et pour cela, nous devons avoir une attitude d'humilité. Une attitude, comme la petite Thérèse nous l'a rappelé récemment dans sa voix de l'enfance, nous ne pouvons pas arriver comme ça. Et donc l'attitude d'adoration suppose que nous puissions nous mettre à genoux quand on peut le faire physiquement, c'est encore mieux. Parfois, on le fait en esprit, mais de montrer au Seigneur que nous venons nous prosterner comme les rois mages, comme tous ceux qui sont venus l'adorer en premier. Et le pape Benoît XVI rappelait cela d'une façon très, très belle dans un discours. Il disait « S'agenouiller en adoration devant le Seigneur, adorer Dieu de Jésus-Christ qui s'est fait pain rompu par amour est le remède le plus valable et radical contre les idolâtries d'hier et d'aujourd'hui. » Donc c'est pour adorer le vrai Dieu. Et s'agenouiller devant l'Eucharistie est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous, les chrétiens, nous ne nous agenouillons que devant Dieu, devant le très saint sacrement. Voilà. Donc, c'est déjà très important d'avoir appris à entrer dans l'adoration par cette manière d'agir, parce que ça détermine notre raison de venir adorer Jésus, Dieu. Voilà. Et dans la démarche d'adoration, nous entrons dans l'adoration de Jésus qui, lui, adore sans cesse le Père. Et donc, c'est aussi une autre démarche, mais qui est très importante. Donc, l'adoration n'est pas que mon petit Jésus à moi qui est là dans l'hostie, mais c'est se détacher de son moi pour entrer dans la prière de Jésus, quoi. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, quand tu pries, ben dites notre Père. Donc on s'adresse à Dieu le Père, en fin de compte, par Jésus-Christ, comme nous faisons dans la liturgie de la messe. Eh bien, à l'adoration, c'est la même chose. Même si nous pouvons parler à Jésus directement, nous sommes invités toujours à entrer dans cette dynamique de la Trinité. Et c'est très important. Et Jésus, le Père, nous donne sans cesse l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous sommes là pour accueillir l'Esprit du Père et du Fils qui se donne à nous sans cesse lorsque nous venons adorer Jésus. Alors c'est très important de se mettre dans cette condition. Le Saint Curé d'Ars disait souvent qu'il y a beaucoup de fidèles, de personnes, quand ils viennent à la messe ou quand ils viennent adorer le Seigneur, ils ne rentrent pas dans la prière. Donc il faut rentrer dans cette démarche, sinon eh bien, nous ne pourrons pas rentrer vraiment dans la prière. Saint-Pierre Julien Aymar disait toujours que toute adoration doit commencer par un acte d'amour. Voilà, donc c'est une manière de... Et donc c'est ça. Donc nous sommes faits pour entrer dans cette dynamique d'aimer Dieu. C'est vraiment... voilà, alors nous pouvons souvent nous tromper lorsque nous venons pour parler de nous-mêmes, même si nous pouvons après échanger avec Dieu des choses. Mais avant tout, il nous faut reconnaître la divinité. Voilà. Donc ça, c'est très important pour avancer dans la démarche de foi. Alors, si nous avons choisi de passer une heure devant le Saint-Sacrement, c'est pas pour comme ça uniquement décidé par nous-mêmes, c'est Jésus qui a un peu institué cette heure sainte. Et bien sûr, il y en a qui font peut-être plus la nuit, par exemple. Il n'y a pas de limite après vraiment, mais nous, on préfère s'en tenir à une heure. Voilà. Alors, ce qui fait qu'une heure, c'est pour certains, c'est très court. Et on va dire plutôt pour ceux qui commencent, c'est relativement très long. Et donc, on est obligé de trouver un moyen pour occuper une heure. Et souvent, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'imagination, de distraction qui se présentent d'une façon ou d'une autre. Alors nous devons demander au Seigneur de nous aider à entrer dans cette prière. Et pour cela, il y a quelques conseils à donner. Il n'y a pas de recette miracle. C'est vrai que par rapport à ce que nous avons vécu aujourd'hui à travers la liturgie de l'Eucharistie, qui est, on est guidé par toutes les prières qui sont prévues, tous les gestes que nous devons faire, tout ça. Donc il y a toujours quelque chose qui se passe, quoi. Pendant l'heure sainte, l'heure d'adoration, eh bien, je dirais qu'on est très libre. On fait ce qu'on veut, en fin de compte. Personne ne nous oblige à faire quoi que ce soit. On a j'ai simplement besoin d'être là, devant Jésus au Saint-Sacrement. Mais pour autant, pour certains, ça fait un peu peur. Parce que, voilà, c'est un peu il faut remplir cette heure. Alors, c'est bien sûr bon, et je le rappelais dans l'homélie, de prier le chapelet, le mystère. Du moins, le chapelet, c'est pas une prière où on rabâche des Je vous salue Marie à la suite. C'est une manière de rentrer dans des mystères de la vie du Christ. Voilà. De méditer. Voilà. Alors, c'est pourquoi nous devons apprendre à prier le chapelet. C'est bon. Et Mère Teresa de Calcutta, la bienheureuse Mère Teresa, elle commençait toujours ses heures saintes en méditant son chapelet. Et au début, quand elle rencontrait des personnes, des prêtres, parfois, on lui disait, mais non, on n'a pas le droit de faire ça. Et comme elle connaissait bien Jean-Paul II, à l'occasion, quand elle l'a rencontré, elle lui a toujours posé la question, est-ce que c'est bien? Et Jean-Paul II lui a dit, bien sûr, c'est très bien, il faut continuer à le faire. Voilà. Donc, et dans son encyclique sur le Saint-Rosaire, le pape évoque ça. Il dit que c'est bon de prier. Mais ce qui n'est pas bon, c'est de faire pendant toute son heure d'adoration un chapelet. Vous comprenez ça, c'est pas bon. C'est bon pour nous aider à rentrer dans le mystère. Pour expliquer d'une autre manière, lorsqu'on est à la messe, tout va un peu vite, c'est comme dans un film. Et l'idée de la faire tranquillement dans l'adoration, c'est qu'on peut s'arrêter, c'est comme un arrêt sur image. On peut s'arrêter sur la scène qu'on est en train de méditer. Et l'Esprit Saint peut, voilà, alors ça peut être l'Annonciation, et on s'arrête, on voit l'archange, tout ça. Et là, Dieu, l'Esprit Saint, va nous dire quelque chose, va nous enseigner un aspect qu'on n'avait peut-être pas vu. Et cela est très, très bon. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à prier. Je dirais que l'adoration est avant tout une école de prière. Alors on peut prier le chapelet, on peut prier toutes sortes de prières, mais dans l'adoration, on retrouve tout ce que nous vivons pendant la messe, toutes les prières, voilà, toutes les manières de prier. Voilà. Alors, on peut bien sûr louer le Seigneur, la louange qui est recommandable, mais on ne peut pas faire que ça. On peut remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, d'une façon ou d'une autre, et c'est très important de commencer par quelque chose de positif, pour essayer de rentrer dans la prière. Voilà, nous pouvons prier les psaumes, ou la liturgie des heures, c'est recommandable. Et je me souviens, l'année du sacerdoce, la grâce plénière qui était accordée aux prêtres était de cette manière-là. Il fallait prier l'office divin devant le Saint-Sacrement. Et c'était une manière très belle pour rappeler aux prêtres qu'il faut adorer le Seigneur et en même temps dire leur office ensemble. Et donc c'était une manière de rappeler cela. Et donc cela aussi est bon pour les fidèles, donc de prier l'office. Voilà. Mais on ne peut pas faire que ça, bien sûr. Alors, dans un premier temps, nous entrons dans l'adoration par ces manières de prier. Mais après, il faut quand même arriver à méditer. Voilà. Alors, bien sûr, on a écouté la deuxième lecture de ce jour qui nous parlait de la parole de Dieu qui est vivante. Alors, Jésus, le Verbe s'est fait chair, donc il est là. Mais la parole aussi, Dieu nous parle par sa parole. Donc, souvent, les gens disent, moi, j'entends rien quand je viens adorer, il n'y a rien. J'entends rien. Bien sûr que Dieu, l'hostie, ne parle pas. Mais si on prend la Bible, eh bien, nous pouvons écouter ce que Dieu veut nous dire. Voilà. Alors, chacun sa méthode. Il y en a certains qui ouvrent n'importe comment la Bible et puis qui lisent le verset qui se présente. Voilà. Bon, chacun fait comme il veut, c'est pas forcément. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que la parole de Dieu est toujours là pour nous dire quelque chose. Mais après, une fois qu'on écoute, donc l'important c'est d'écouter, c'est pas de lire. Il y a la période où il faut lire, la lectio, mais un moment où il faut écouter la parole. Et c'est l'école de la méditation. Il faut méditer. Dieu nous parle et de temps en temps, on a envie de s'arrêter sur ce qu'il nous dit. Il y a des choses qui font tilt. Et là, on peut, comme disaient les moines, essayer de ruminer la parole, d'essayer de la reprendre, de faire plusieurs fois. Et cela nous aide à intérioriser cette parole qui nous est donnée et de qu'elle vienne à notre cœur, voilà, qu'elle vienne vraiment traverser notre cœur pour qu'elle puisse nous changer notre cœur, voilà, convertir, quoi, voilà. Donc c'est le but de méditer la parole de Dieu. C'est pour que ça fasse un électrochoc parfois, et que ça nous aide. Mais cela ne suffit pas non plus, parce que après, bon, voilà, on est bien, mais Dieu nous invite après à prier le Seigneur avec ses paroles qu'il nous donne. Il nous nourrit, il nous apprend à le connaître, il nous apprend à l'aimer. Et nous sommes invités après, après la méditation, à prier comme une sorte de réponse d'amour et avec ce que Jésus vient de nous dire. C'est là qu'on commence à entrer dans ce vrai dialogue, parce que ça vient avec l'Esprit Saint. C'est qu'on a écouté Dieu et nous on lui répond et on entretient une espèce de, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, une sorte de commerce avec Dieu. Et on entretient ça. Et c'est intéressant parce que là on est sûr que c'est vraiment l'Esprit Saint. Et cette prière qui va monter du cœur va progressivement se purifier, devenir de plus en plus, j'allais dire, simple. Tellement simple qu'à un moment, on n'a plus rien à dire devant Dieu. Parce qu'on est dans le mystère, on est devant Dieu et on est baba, j'allais dire, comme le ravi de la crèche. Et on peut dire qu'on arrive à ce qu'on appelle souvent la contemplation. La contemplation, c'est quand on entre dans le mystère, mais on n'a plus rien à dire. On est émerveillé devant ce que Dieu est, tout simplement. Et c'est difficile à dire avec des mots, en fin de compte. Chacun l'expérimente à sa façon. C'est pourquoi il est toujours difficile de témoigner de ça. Parfois, on le dit. Voilà. Alors, c'est pourquoi on a parfois. Voilà. On n'a pas. Bien sûr, tout ça, ça peut paraître un peu des mystiques, de la haute mystique, mais c'est à la portée de tous. Nous sommes tous invités à faire ces expériences de cœur à cœur avec Dieu. Mais il ne s'agit pas de se soulever du sol, ou de monter en lévitation, de faire des choses incroyables. Cela se passe très simplement. Et bien sûr que cette contemplation qui nous est donnée, cette profonde, nous invite à nous pousse, comme dit saint Paul, à vouloir transmettre cet amour. C'est-à-dire que c'est tellement fort, c'est un feu qui nous est donné, l'Esprit Saint, eh bien qu'on a envie de le porter au monde. Voilà. Et c'est ça la source de l'évangélisation, d'une certaine manière. C'est la charité qui nous habite, c'est l'amour qui est en notre cœur, et on n'a pas envie de garder pour soi, normalement. Cet amour qu'on vient de recevoir d'une façon merveilleuse, eh bien, nous invite à le transmettre. Et c'est pourquoi, quand on sort de l'adoration, alors on ne ressent pas forcément tout ça, mais c'est le but de l'adoration, c'est de porter l'amour aux autres, voyez, et de vivre la charité toute simple. C'est le pape François dit que quand on parle d'évangélisation, c'est rayonner ce que Dieu nous donne, en fin de compte, dans la méditation, dans tout ça. Alors, parfois, on ressent rien vraiment, c'est pas grave. Il faut pas toujours vouloir ressentir des choses. C'est pas de l'ordre, forcément, du sensible. Mais cela se réalise de différentes manières. Donc, l'important, c'est de vouloir rentrer dans cette dynamique. Donc, il faut vouloir vraiment, et je dirais que la difficulté que beaucoup de fidèles, quand ils viennent adorer, souvent c'est que, en Provence on parle beaucoup, mais on dit barjaquer en provençal, c'est parler beaucoup. On peut beaucoup parler devant le Seigneur, et le bon Dieu ne peut pas en placer une, vous voyez ce que je veux dire. Et donc il faut surtout faire silence. Mais quand je parle du silence, on pense tout de suite au silence extérieur. Alors que il faut faire taire aussi notre intelligence qui est, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, la folle du logis, quoi. Tout part en brouille. Et c'est pour ça qu'on a vite des distractions, ça part dans tous les sens. Voilà. Alors, il faut apprendre à faire silence. Et ce silence, pour que Dieu habite dans ce silence, voilà, parce que le silence pour le silence n'a aucun intérêt. C'est pour que laisser cette brise légère venir à nous, comme le dit le Seigneur à Élie. Voilà. Et donc, c'est pourquoi nous devons aussi prendre absolument, dans une heure d'adoration, des moments où on relâche les choses, où on se met complètement à la disposition du Seigneur, où on se tait, quoi, j'allais dire, voilà, vraiment. Voilà. Il faut apprendre à se taire pour écouter Dieu. Et beaucoup de gens voudraient avoir des réponses immédiates avec Dieu. Alors c'est vrai que parfois, on va à l'adoration, on y va pour demander telle ou telle chose, et rien. Alors on repart très triste. Et souvent, Dieu est très patient, vous le savez. Soit il va nous donner une réponse plus tard, dans la journée, dans les événements que nous allons vivre, ou plus tard, dans toute autre chose. Voilà. Donc il faut apprendre à être complètement disponible à la grâce. Le danger, c'est ce que nous faisons souvent, même quand nous récitons le Notre Père, on dit... Quand on arrive à l'adoration, on ne dit pas que ta volonté soit faite, mais que ma volonté soit faite. On y va pour nous, pour nos besoins. Voilà, on voudrait que dans le monde, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et on demande à Dieu ce qu'il faut faire, quoi, presque. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est nous qui devons demander à Dieu ce qu'il faut faire. Vous voyez, et c'est lui qui va nous apprendre à changer notre cœur pour nous mettre en phase avec lui. Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est ça la conversion. C'est qu'il faut tout le temps se convertir. On n'a jamais fini. Et c'est pourquoi le temps de l'adoration est vraiment un temps merveilleux. On peut venir à toute sa vie participer à la messe, le dimanche, même en semaine, sans se convertir. Mais c'est beaucoup plus difficile de venir régulièrement devant le Saint-Sacrement sans un jour vraiment se convertir. Et c'est pourquoi certains d'entre nous ont tendance à arrêter, parce que on est un peu travaillé par le Seigneur, il faut être honnête. On peut pas, ou alors on n'est pas disponible à la grâce. Donc c'est normal, ça, je veux dire. Dieu va nous travailler. J'ai parlé tout à l'heure du Père Nicolas Butet, et c'est lui qui nous témoignait de ça. Il parlait parce que il est, vous allez comprendre, il est suisse. Et en Suisse, il y avait un adorateur. À chaque fois qu'il venait adorer, le Seigneur lui parlait de ses impôts. Alors il disait au Seigneur, attends, les impôts, aucun rapport avec le bon Dieu. Il dit, laisse-moi tranquille. Et puis à chaque fois, ça revenait sur le tapis et il disait, mais c'est pas possible. Et puis en fin de compte, c'est qu'il y avait vraiment un problème avec ses impôts, quoi. Alors il a changé et tout s'est arrangé. Ouais. Alors le Seigneur, parfois, il nous fait comprendre les choses à sa façon. Mais il est persistant, parfois, vous voyez ce que je veux dire. Alors à nous d'être ouverts à ce qu'il a disponible, à la grâce. Voilà. Parce que si nous venons sans cette disponibilité du cœur, eh bien, nous n'aurons pas les fruits qui correspondent à ce que Dieu veut nous donner. Voilà. Voilà, c'est pourquoi nous devons vraiment apprendre à avoir cette disposition. Alors, lorsque nous avons une heure sainte, nous devons apprendre aussi à trouver des sujets, des thèmes. Alors, bien sûr que nous pouvons, comme le rappelait Benoît XVI, préparer à vivre la messe du dimanche, ou je ne sais pas quoi. On peut penser à plein d'autres choses. J'ai un passage très beau du Seigneur, pardon, de Antoine-Marie Claret, où c'était les conseils spirituels que Jésus donnait. Il disait comment il fallait faire devant Jésus pour lui plaire. Alors, il faut être le plus simple possible. Il faut être en vérité, vrai. C'est ce que disait Saint-Pierre Julien Aymar aussi. Et comme nous avons vu dans l'Évangile aujourd'hui, ce que le Seigneur préfère, c'est que nous soyons des pauvres. Il faut venir avec notre nullité, notre pauvreté. Si on arrive avec tout ce qu'on a, nos bagages, en disant « Seigneur, tu sais, moi, ça ne va pas du tout. Ça ne peut pas fonctionner. » Donc, nous devons avoir cette attitude, comme je disais, d'humilité. Et c'est ce qui va permettre. Mais pour autant, le Seigneur dit, s'intéresse à tout, en fin de compte. Donc, je disais tout à l'heure qu'il fallait s'intéresser à Dieu, nous. Mais en même temps, nous pouvons aussi prendre du temps pour parler de nos affaires. Tout intéresse le Seigneur. Et c'est aussi intéressant parce que parfois, on pourrait, quand on va à l'adoration, se couper du monde, se faire comme si c'était un arrêt, et puis on pense qu'à Jésus, tout ça, et puis après on revient dans le monde, et puis c'est autre chose, c'est un autre monde. Non, Dieu s'intéresse à ce que nous vivons. Et donc, que ce soit ce qu'on vit dans notre famille, dans notre travail, ou n'importe où, le Seigneur est là pour nous aider à nous sanctifier partout où nous sommes. Et voilà ce qu'il disait. Il n'est pas nécessaire de savoir beaucoup pour me plaire. Il suffit de m'aimer beaucoup. Voilà. Souvenez-vous, c'est ce que, quand la petite Thérèse de l'Enfant Jésus passait des heures et des heures devant le Saint-Sacrement, ses sœurs la voyaient et disaient « Mais alors, qu'est-ce que tu peux bien raconter au bon Dieu ?» Et elle leur répondait tout simplement « Je dis rien, je l'aime, c'est tout. » Voilà. Donc en soi, souvent, on peut parler, mais le Seigneur attend avant tout de l'amour, voilà. C'est un échange d'amour. Mais pour autant, il dit, dis-moi ce que tu dirais à ta mère si elle était là et qu'elle t'attirerait sur tes genoux. Raconte-moi ce que tu raconterais à un ami intime avec qui tu t'entourerais jamais. Si tu veux pourtant des sujets de conversation, voici qui pourront te servir pour chacun des jours de la semaine. N'as-tu pas des gens à me recommander ? Voilà. Donc nous avons plein de personnes autour de nous, dans la famille, au travail. Telle personne, est-ce que tu pourrais t'occuper de... Ouais. Voilà. J'aimais bien parce que le pape François disait, quand il voit quelqu'un qui est en train de se... qui est un peu orgueilleux, tout ça, il dit « Seigneur, j'avais lu ça, j'avais trouvé ça, c'est sympathique. » Il disait « Envoie-lui une peau de banane pour qu'il réagisse. » Voilà, il disait, voilà comment il... Voilà, enfin, chacun sa méthode. N'as-tu pas des grâces à nous demander pour toi ? Voilà. Alors, demandez, vous recevrez. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander. Et tout dernièrement, on a eu le texte où je disais, si on pouvait demander à notre Père, on ne donnerait pas à la place d'un œuf ou un scorpion, ou je ne sais plus quoi, vous me relève. Il disait, demandez l'Esprit Saint. Demandez, demandons en abondance toutes les grâces que nous avons besoin. N'as-tu pas des projets qui t'occupent ? Donc voilà, nous avons souvent, on fait des projets sans demander à l'Esprit Saint le don de conseil pour voir si c'est bien. Voilà. Donc nous pouvons présenter nos projets de toutes sortes. Dieu était charpentier, il a le sens des affaires et il ne faut pas avoir peur de lui présenter des choses. N'as-tu pas des ennuis ? Ça, on a tous. Enfin, bref. Ô mon enfant, raconte-moi tes ennuis avec beaucoup de détails. qui t'a fait de la peine, qui a froissé ton amour-propre, qui t'a méprisé, dis-moi tout. Et puis, tu finiras en ajoutant que tu pardonnes, que tu oublies, et moi je te bénirai. Voilà, confie-toi pleinement à ma providence, je suis là, j'écoute, je ne me lasserai jamais. Voilà, donc, ne croyons pas que nous pouvons rien dire pour autant devant le Saint-Sacrement. C'est voilà. Alors, c'est pourquoi, je dirais, en fin de compte, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de sujets. C'est pourquoi nous ne devons pas tout dire en une heure, et c'est pourquoi il faut un peu organiser son heure sainte pour pas tomber dans du blabla ou autre chose. C'est pourquoi il nous faut apprendre un temps de louange, je le disais tout à l'heure, de remerciement, de savoir, et puis de savoir aussi avoir un temps de reconnaître notre faiblesse, voilà, on va rentrer dans l'année de la miséricorde, de jubilé, cette année jubilaire que le pape nous invite à vivre bientôt, et donc l'attitude de la pénitence est très importante. Nous demandons pardon au Seigneur, et pour tout ce que nous voyons, il suffit de regarder malheureusement les informations pour voir qu'il faut tout de suite pas se plaindre devant ce qui se passe, mais plutôt demander pardon pour tout ce que nous voyons d'horrible, et demander la grâce de la conversion des cœurs. Voilà. Donc nous avons beaucoup de grâce, et nous devons intercéder. Voilà. C'est donc une grâce d'intercession. Ce que nous faisons pendant la messe, la prière universelle, eh bien nous pouvons faire notre prière universelle aussi, chacun à notre manière, pour le monde en premier lieu. Nous prions pour le pape, c'est très important de porter les intentions de l'Église, comme je disais tout à l'heure, prier pour la famille. Voilà. Nous devons avoir ce souci premier de le porter dans notre prière, et en même temps en pensant à notre propre famille en premier lieu, mais à la famille que nous rencontrons et tout ça, et nous pouvons confier, bien sûr, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vivent, bien sûr, toutes les difficultés de notre monde, voilà. Et donc, nous les présentons à Dieu. Et Dieu, dans son cœur, qui est blessé, et que son cœur ouvert, va venir guérir tout ça. Il est tout-puissant, voilà. L'adoration eucharistique est beaucoup plus puissante que tout ce qu'on peut imaginer. La majorité des miracles eucharistiques, je pense à ceux de Lourdes, les miracles de Lourdes sont eucharistiques. Beaucoup voilà, il suffit de, voilà, alors soit par l'adoration parce que Jésus passe là, voilà. Donc nous devons demander des miracles, voilà. Non pas pour en mettre plein la vue, c'est pas ça. Les miracles, c'est pas forcément pour être, voilà. Mais c'est pour que Dieu puisse agir vraiment, et sans retenue, voilà. Donc n'ayons pas peur de lui demander. Du temps du Saint-Pierre Julien Aymar, donc celui qui a fondé les Pères du Saint-Sacrement, c'était le temps du jansénisme, hein, donc c'est contemporain du curé d'Ars. À l'époque, lorsqu'on faisait l'adoration eucharistique, c'était dans la dimension uniquement de réparation. Alors, pour autant, il ne faut pas la négliger. Donc, dans l'année de miséricorde, on va apprendre à réparer. Souvenez-vous, Saint Jean-Paul II avait fait beaucoup de prières pour demander pardon. Et nous devons apprendre à demander pardon devant le Saint-Sacrement, beaucoup, au nom, pour nous-mêmes, bien sûr, mais pour les autres. Et donc, cette dimension de réparation est très importante. Bien sûr, à Paray-les-Moniales, Jésus, quand il a montré son cœur à Sainte Marguerite Marie, a demandé réparation pour toutes les offenses. Il disait, pour toutes les offenses que l'on vit par rapport à l'Eucharistie. Il a dit qu'il souffrait encore plus aujourd'hui que tout ce qu'il a vécu pendant sa passion. C'est impressionnant quand on entend ça. Et puis vous avez la prière des petits de Fatima, je crois, j'espère, j'adore, et qui est aussi à la fin une prière de réparation. Voilà. Alors il y a des prières toutes faites qui sont très belles, et donc nous pouvons les apprendre par cœur et s'en imprégner, mais là, nous pouvons nous-mêmes faire notre petite prière du cœur. Voilà, ça plaît beaucoup au Seigneur. Donc nous ne cherchons pas à en mettre plein la vue au Seigneur. Voilà. Donc cette dimension de réparation est très importante. Et à ce sujet, je voudrais faire le lien avec la miséricorde que comme je l'ai dit, Jésus a dit à Sainte Faustine que l'Eucharistie vint, le tabernacle est le trône de la miséricorde. Et pourquoi il a donné cette expression? Parce que l'Eucharistie est un sacrement aussi de guérison. Il n'est pas à part entière comme le sacrement de réconciliation ou le sacrement des malades, mais Jésus peut guérir toute personne. Et donc, nous savons aussi que le bienfait que cela réalise, et c'est vrai, le fait que maintenant vous ayez des permanences de confession tous les jours dans votre église, c'est merveilleux, et c'est sans doute un fruit de l'adoration eucharistique. Et partout où on va, où on expose le Saint-Sacrement dans les paroisses, les curés sont très contents, parce qu'ils voient davantage les personnes venir se confesser, et je dirais mieux se confesser, plus se confesser, et donc c'est vraiment un des fruits de l'adoration. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsque nous venons devant Jésus au Saint-Sacrement, nous nous retrouvons devant lui, comme face à face. Et lorsque nous verrons Dieu face à face, nous nous verrons tel que nous sommes. Et d'une certaine manière, c'est ce qui nous arrive. C'est pourquoi, je l'ai expliqué tout à l'heure, ça nous apporte, ça nous renvoie. Et pourquoi c'est difficile de se voir tel que nous sommes, en vérité. Et c'est ce qui va nous aider à découvrir nos péchés et à demander pardon. D'avoir la vraie contrition et de demander la grâce de la réconciliation entre vers le sacrement de la miséricorde. Voilà, et c'est pourquoi nous devons associer les deux. Et je pense que l'année de la miséricorde, il y a un lien très fort entre l'adoration eucharistique et la miséricorde. Et nous devons le plus souvent proposer les deux, quoi. C'est-à-dire que, voilà, parce que sinon, nous ne pouvons pas avancer. Voilà. Dieu veut vraiment que nous fassions cette expérience d'amour, de se laisser guérir par Jésus. Voilà. Alors, c'est pourquoi je pense que le pape François nous invitera à faire cette évangélisation, cet apostolat, je dirais, d'amener nos frères à Jésus. En fin de compte, lorsque nous proposons aux autres de venir adorer, nous leur proposons de venir se préparer à rencontrer Dieu, à aller au ciel, quoi, je dirais, et à nous disposer à être propre, quoi, à être comme dans l'évangile où il y a celui qui n'a pas la tunique comme il faut. Et donc c'est pour nous laver, nous préparer à rencontrer Dieu. Voilà. Et donc c'est merveilleux. Donc remercions le Seigneur de nous faire cette grâce de sa miséricorde au Saint-Sacrement. Et puis, nous sommes invités à vivre la grâce de la transformation. Alors, la transformation se fait à l'intérieur, on a dit, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde. Et lorsque nous venons adorer, nous pensons que ça bouge que par rapport à nous-mêmes. Et il se trouve qu'on m'a demandé de faire un temps d'adoration, enfin une heure d'adoration, à la radio. Alors, je trouvais ça un peu stupide, vous aussi sans doute. La première réaction, c'est ce qu'on a. On dit à la radio, comment on peut faire passer Jésus. Et puis, en réfléchissant, j'ai dit pourquoi pas. Et c'était en fin de compte, lors du congrès de eucharistique mondial à Québec, que c'était Radio Espérance qui avait retransmis une heure d'adoration. Et ils s'étaient aperçus que ça faisait beaucoup de bien, les gens étaient très contents, et que vraiment on pouvait faire ça. Donc ils ont dit ça serait bien. Mais alors ils m'ont dit, vous pourrez faire ça pendant la nuit. Alors pour la nuit, c'est très bien. Voilà. Alors j'ai cherché un peu autour de moi, plein de personnes pour le faire, puis je n'ai pas trouvé. Et puis le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait le faire. Du coup, ça fait presque 6 ans que je fais ça. Et là, je viens de changer de ministère, donc je vais reprendre vendredi qui vient. Donc priez pour moi. Donc je fais ça de 2h à 3h, l'heure la plus difficile. Bon, c'était prévu comme ça. Et l'idée, c'est bien sûr un esprit de réparation, puisque c'est le vendredi. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai pu, dans ma petite paroisse où j'étais au pied de la Sainte-Baume, lancer l'adoration la nuit. J'ai dit aux gens, vous allez adorer pendant que moi j'adore devant au Saint-Sacrement, parce que je faisais ça dans les chapelles, mais comme il y a la technique, c'est un peu compliqué de le faire avec les autres. Et je disais aux gens, mais c'est vous qui faites le mieux, parce que vous êtes avec le Seigneur et avec le monde entier. Mais ce qui m'a fait toucher du doigt, et c'est pour ça que je témoigne, c'est que la technologie est très incroyable aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça. Donc ça marche par Internet, cette affaire. Et par la connexion d'Internet, je connecte Dieu dans le monde entier. Et je dis, c'est génial, c'est incroyable. Parce que quand tu pries tout seul, tu n'as pas l'idée de pouvoir connecter avec tout le monde. Et bien sûr, il y a les fuseaux horaires, ça ne marche pas les mêmes heures partout. Mais en tout cas, n'importe qui peut t'écouter dans le monde entier, enfin être en connexion avec Jésus par la radio. Et bon, c'est extraordinaire quand tu le vis. Ben moi, je suis devant Jésus, et voilà. Et ça m'a fait comprendre qu'en fin de compte, chaque fois qu'on vient devant ce sacrement, c'est comme ça, c'est beaucoup mieux que ça. Mais on ne le sait pas. Moi, je le sais parce que j'ai Internet. Mais vous aussi, chaque fois que vous venez adorer, vous êtes en connexion avec le monde entier. Et c'est ça qui est incompréhensible donc, pour nous. Mais c'est beaucoup plus puissant que ça, en soi. Donc, en soi, lorsque nous prions, eh bien, Dieu peut-être est en train de guérir une personne en Australie ou n'importe où dans le monde sans qu'on le sache. Et c'est comme ça que Jésus l'a montré à Sainte Faustine. Mais on a du mal à le réaliser, à s'en rendre compte. Mais c'est beaucoup plus fort que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de temps en temps de prendre conscience de cela. Et alors, une chose aussi sympathique, parce que là, parfois la technologie ne marche pas, ça peut arriver. Et moi, ça m'est arrivé de... Bon, là, il ne marchait pas, mais pour autant, je continuais à adorer. Et j'avais des retours de personnes qui m'écoutent régulièrement, puisqu'en fin de compte, il y a énormément d'insomniaques qui se lèvent la nuit pour écouter la radio. Je trouvais ça complètement fou, mais enfin, il y en a plein. Et ils me disent, c'est pas grave, on sait que vous êtes devant le sacrement, alors on est en communion avec vous. Il n'y a pas de problème, ils disent. On sait que vous êtes avec le Seigneur. Et c'est beau aussi, moi je trouvais c'était touchant. Donc en fin de compte, c'est pourquoi c'est toujours bien de penser que ici, en ce moment même, à l'heure où je vous parle, il y a un adorateur qui est devant le sacrement. Et ça, ça nous porte, vous voyez, c'est puissant, je trouve. Et c'est ça l'adoration perpétuelle, c'est quelque chose, voilà. Alors bien sûr, il y a des chapelles partout dans le monde, et c'est ce qui permet de faire tenir le monde, voilà. Donc, bien sûr qu'en même temps, on dit que plus il y aura de lieux d'adoration eucharistique sur la terre, plus que nous faisons attirer le règne de Dieu sur la terre. Donc ça prépare le retour de Jésus dans la gloire. Alors ça, c'est aussi difficile à faire comprendre aux gens. Mais ce n'est pas forcément mathématique, je ne sais pas comment le bon Dieu fonctionne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus nous sommes nombreux à adorer, plus il y a d'heures d'adoration dans la paroisse, plus nous faisons venir les grâces de miséricorde sur l'humanité tout entière. Donc nous devons vraiment prendre conscience de tout ça. Voilà. Alors... Le pape Benoît XVI, est, comme grand théologien, nous a beaucoup aidé à un peu plus approfondir cette importance. Et par rapport à ce qu'on a pu reprocher au Concile Vatican II, on a fêté les 50 ans dernièrement, là, c'est vrai que le pape est... Et les cardinaux, toute l'Église, enfin ceux qui sont à la tête, ont reconnu humblement que il y a eu une sorte d'oubli. Ils n'arrivent même pas forcément à l'expliquer par rapport à l'adoration eucharistique. On n'en a pas particulièrement parlé. Alors, c'est pourquoi certaines personnes ont interprété « puisqu'on n'en parle plus, ça n'existe plus ». Et du coup, on l'a plus ou moins rayé de la carte. Si j'en parle ce soir, c'est pour aider à répondre à ces gens de personnes qui disent que bon, c'est fini, c'était autrefois. Voilà. Et voilà ce que le pape nous disait. C'est une erreur que d'opposer la célébration de l'adoration comme si elles étaient concurrentes, c'est justement le contraire. Et il dit, l'accent mis sur la célébration de l'Eucharistie s'est fait aux dépens de l'adoration en tant qu'acte de foi et de prière adressée au Seigneur, Jésus réellement présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et il dit, ce déséquilibre a aussi eu des répercussions sur la vie spirituelle des fidèles. Et là, il reprend, en réalité, c'est une erreur que d'opposer la célébration de l'adoration comme si elles étaient concurrentes. C'est justement le contraire. Le culte du Saint-Sacrement constitue comme le milieu spirituel dans lequel la communauté peut célébrer l'Eucharistie bien et en vérité. C'est seulement lorsqu'elle est précédée et accompagné et suivi de cette attitude intérieure de foi et d'adoration, que l'action liturgique peut exprimer toute sa signification et sa valeur. Voilà, donc il a bien remis les choses comme il faut. Ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique, forcément, mais et pour autant, c'est vraiment ce qu'il a voulu nous aider à découvrir. Et même, il reprenait Saint Augustin qui disait « Nous ne pouvons pas recevoir Jésus dans la Sainte Communion sans l'avoir déjà adoré. » Donc, vous voyez, ça reprenait un peu ce que déjà disait ce grand saint. Vous voyez. Donc, c'est important de bien faire la part des choses. Voilà. Alors, aujourd'hui, peut-être que vous avez des questions à poser, mais... Et on peut penser que l'adoration est réservée qu'à certaines personnes. Il faut vraiment, comme le pape nous invite à aller à la périphérie de chaque ville, de partout, l'adoration c'est pour tous. C'est ça qui est formidable. Même un athée, même n'importe quelle religion, n'importe quoi, n'importe qui peut adorer, parce que nous sommes faits pour ça. Et donc, peut-être parfois, nous trompons en pensant qu'on le réserve uniquement aux chrétiens. Bon, je pense qu'on doit ouvrir très large. Voilà. Alors, bien sûr qu'on peut, faut expliquer, et c'est pour ça que pour moi, c'est un moyen d'évangélisation, l'adoration. Parce que ça va nous aider à expliquer à notre manière, en témoignant d'une part ce qu'on vit, mais aussi, voilà, que Jésus est vraiment vivant dans l'Eucharistie. Et ça montre que chaque fois qu'on peut le faire à quelqu'un qui est un peu à côté de la plaque, parce qu'on ne lui a jamais dit, eh bien, il trouve ça merveilleux. Et nous, peut-être que nous sommes trop habitués, sans nous en rendre compte. Voilà. Et parfois, il faut nous aider à avoir des témoignages comme ça pour nous faire réfléchir et reprendre conscience que c'est vraiment un cadeau incroyable d'avoir Dieu en personne qui nous demande de venir prendre un rendez-vous avec lui, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons méditer, mais surtout passer à l'acte. Et cet après-midi, donc, on a un peu échangé, parce qu'il y a un peu d'organisation pour essayer de mettre en place l'adoration, c'est normal, et on peut trouver ça parfois un peu compliqué, mais ça dépend de chacun de nous, il faut être honnête. Si chacun cherche un autre adorateur, eh bien, ça fait deux adorateurs, quoi. Et donc, en soi, on peut vite faire avancer les choses. Donc, ne, c'est tout à fait possible. Oui. Et donc je pense que nous devons apprendre à évangéliser par l'adoration. Enfin, c'est vraiment c'est un moyen très simple, mais qui est vraiment possible. Et je pense que c'est un challenge que le pape nous demande à travers, bien sûr que nous devons aider les autres à se convertir, comme le père Dominique l'a rappelé, à demander les sacrements, le baptême, tout ça. Mais ça ne peut pas toujours se faire comme ça. Et c'est pour ça que de les amener devant Jésus, ben Jésus va s'en occuper. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très important. Alors même s'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, Jésus s'en occupe. Voilà. Et donc, c'est comme ça, ça a commencé comme ça, les disciples. Pierre, il a amené son frère à Jésus, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que s'est fait l'évangélisation. Moi, j'ai dans ma paroisse où j'étais curé avant, j'étais impressionné parce que j'avais mis l'adoration au catéchisme. Bon, un petit temps, ça durait 10 minutes, mais toutes les heures de catéchisme, je proposais aux enfants, j'avais fait un petit oratoire très sympathique, et on prenait un temps d'adoration. Et les enfants, ils adoraient. Mais c'était impressionnant, il fallait voir. Ils demandaient toujours, « Père, on veut aller l'adorer. » Et à chaque fois, ils amenaient des nouveaux. Ils disaient, « Viens, on va adorer. » Et c'était incroyable. Je dis, « Mais ça se fait tout seul. » C'est ça, l'évangélisation. Mais j'étais baba, parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à le faire. Quoi. Et donc, c'est... Voilà. Mais il faut prier l'Esprit Saint davantage, peut-être, pour que nous-mêmes, moi le premier, parce que c'est facile à dire comme ça, mais on est tous un peu bloqués, on ne sait pas pourquoi. On a un peu... Alors, voilà. Alors, il ne s'agit pas de forcer qui que ce soit, il s'agit de proposer à nos frères, à nos sœurs. Et ce qui est surprenant, souvent, les gens, ils disent « Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt ? Moi, je ne savais pas que ça existait, ça. » Vous voyez ? Et je pense que à La Roche-sur-Yon, comme partout ailleurs, il y a plein de personnes qui n'attendent que ça. Quoi. Voilà. Et donc, nous devons faire en sorte de permettre au maximum de gens. Personne ne peut être mis de côté. Quoi. Voilà. Voilà. Tout le monde est invité à le faire. Et après, c'est l'affaire du bon Dieu. Alors, il y a ceux qui vont s'engager une heure. Peut-être certains ne viendront pas forcément une heure dans un premier temps. Mais par la suite, voilà, on n'est pas là pour faire un truc pour en mettre plein la vue. On est là pour faire en sorte que le maximum de personnes découvrent l'amour de Dieu et se convertissent. Voilà. C'est ça le plus important. Voilà. Et donc nous devons prier dans ce sens, ça je veux dire. Il faut aller tous dans le même sens, sinon, voilà, si on est là et puis on sort comme si de rien n'était, juste pour soi, il y a un petit problème, quoi. Voilà, il faut vraiment qu'on apprenne à sortir de soi pour aller vers les autres et pour les amener à Dieu. Voilà, c'est ça le point essentiel, je pense, d'évangélisation. Voilà, et puis notre pape est tellement merveilleux, je dirais, enfin, surprenant même, que nous avons de quoi l'écouter et vraiment le méditer, ce qu'il nous donne, et ça nous aide beaucoup à avancer. Voilà. Parce que je pense qu'il nous invite souvent, pratiquement tout le temps, à faire des examens de conscience. Il aime bien. Alors c'est vrai, c'est vrai que c'est bien de le faire devant le Seigneur, et puis d'essayer d'avancer dans le sens que l'Esprit Saint nous dira. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur l'adoration particulière.
Tout le monde est réveillé?
Voilà.
C'est pas que tu as endormi tout le monde, hein, c'est pas du tout.
Voilà, alors bien sûr, enfin, oui, vous connaissez le brasier eucharistique, vous l'avez bien sûr.
Oui. Tout ça.
Voilà, il faut se former. Notre responsable, enfin le père Florian Racine, que vous connaissez tous normalement, qui était venu lancer l'adoration. Ce week-end, il était à Paris pour former certains coordinateurs de chapelles d'adoration. C'est important Former ne veut pas dire qu'on étudie et que voilà, il y a des livres, il y a des revues, il y a des CD, il y a plein de méthodes de toutes sortes qu'on peut prêter aux gens pour les aider à découvrir l'adoration dans un premier temps. Et puis bien sûr, après, il faut leur dire de faire vraiment. Mais parfois, c'est très simple. Donc il ne faut pas avoir peur de se servir de tous les moyens qu'on a et de la technologie moderne aujourd'hui aussi.
Donc à propos de technologie, l'enseignement est enregistré, puisque nous ne sommes pas tous présents. Tous les adorateurs ne sont pas là. Sachez qu'il est enregistré, il sera mis en ligne sur le site de la paroisse. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas venir. Hein. Le dimanche soir, ce n'est pas idéal. Voilà, je voulais simplement dire quelque chose qui me venait pendant que tu parlais, qui me semble intéressant à bien réaliser, c'est que l'adoration, ce n'est pas une entreprise humaine que l'on organise comme on va faire marcher un club de foot. Voilà. Et même un club de foot, s'il n'y a pas les joueurs, ça ne va pas marcher non plus. C'est une entreprise qui nous dépasse. Et donc, il y a quelque chose qui ne dépend pas de nous du tout. Hein, d'ailleurs, le fait qu'on ait pu lancer l'adoration 7 jours sur 7, c'était la surprise du dimanche soir 8 décembre ou 9 décembre, je ne sais plus trop, quand le père Racine est venu. On s'est dit, tiens, on va pouvoir faire l'adoration 7 jours sur 7. Moi, j'avais aucun a priori, je ne savais pas ce qui serait possible. Donc ça ne dépend pas de nous. Et je crois que c'est quelque chose de très très important de prier pour que l'adoration puisse se poursuivre et puisse se développer et de demander vraiment au Seigneur cette grâce. Et à la Vierge Marie aussi, par l'intercession de la Vierge Marie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'adoration, c'est comme l'Église. C'est un corps mouvant, qui bouge. Donc c'est comme une paroisse, c'est comme une réalité d'église, c'est-à-dire qu'il y a de la vie. C'est pas des cases remplies et puis désormais ça va marcher pendant 10 ans avec les mêmes personnes à la même heure. C'est absolument impossible et c'est pas ce que le Seigneur veut, c'est évident. Donc il y a quelque chose, il y a un mouvement permanent et dans les adorateurs, évidemment, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent, il y en a tout le temps. C'est un mouvement permanent. Et c'est normal que ce soit ainsi. Et il faut prendre conscience que c'est un corps. Et que ce corps-là, soit on ne le nourrit pas assez, ou je ne sais pas trop ce qui manque, il va maigrir, soit au contraire, il va prendre de l'embonpoint. Alors je ne vais pas dire qu'il va grossir, il va se muscler. il va prendre, c'est très lourd les muscles, hein. Ça prend des kilos. Donc voilà, il va prendre de l'embonpoint, enfin bon, voilà. Mais, donc, il y a cette réalité-là, et nous, on est responsables un peu de cela, que ce corps soit vive il faut qu'on permette au Seigneur d'agir et de rejoindre les cœurs et qu'il y ait des nouveaux adorateurs et que cette réalité-là se développe, si Dieu le veut, mais qu'a priori, il n'y a pas de raison d'en douter. Hein, donc voilà. C'est un corps vivant, puisque tu as dit aussi par rapport à la question de l'évangélisation, c'est-à-dire que l'adoration, c'est un élément de la vie paroissiale qui n'est pas un élément isolé à côté de toutes les autres activités, notre vie personnelle, notre vie privée, notre vie publique, la paroisse, les activités paroissiales, c'est au cœur de la vie paroissiale, lié à l'Eucharistie dominicale, essentiellement à l'Eucharistie, et c'est fait pour irradier toute la vie paroissiale. Donc ce n'est pas un truc à mettre à part, et c'est très très important qu'on permette au maximum de paroissiens et autres de pouvoir y toucher, donc de pouvoir goûter à l'adoration. Donc nous avons une responsabilité, un appel par rapport à cela, pour faire découvrir aux uns et aux autres la beauté de l'adoration et voilà, tous les fruits qui peuvent en être donnés.
Voilà. On avait fait une rencontre avec les hauts de l'Église, les cardinaux, tout ça, et qu'on commençait notre mission un peu partout et commençait à être reconnu. Et lorsqu'on a rencontré le cardinal qui précédait le cardinal Sarah, préfet de la congrégation du culte divin, et ils nous ont dit, vous savez, aujourd'hui, c'est pas l'Église qui veut l'adoration, c'est le Christ qui veut l'adoration pour son Église. Donc il faut plaire au Christ. C'est vraiment pour le Seigneur, c'est Dieu qui veut ça. Il faut être convaincu que c'est ça. Et c'est une urgence, comme on disait tout à l'heure. C'est une urgence. C'est urgent parce que le monde va très mal, et s'il n'y a que le Christ qui peut sauver le monde. Et donc l'adoration, c'est ce qui est le plus important. Vous comprenez ? Voilà. Donc il faut vraiment le prendre à cœur. Et voilà, c'est pas magique, bien sûr, c'est pas hop, toc, ça y est. Mais c'est comme disait Benoît XVI, l'adoration n'est pas un luxe, mais une nécessité. Voilà, donc c'est indispensable.
Très bien. Y a-t-il des questions ? Une dernière question ?
Ah.
Merci. Là, vous parlez de cas particuliers. Donc, il faut toujours faire.
Hein ? De gens qui pleurent, faut que tu précises.
Oui, voilà. Quand on parle, bon, c'est pas tous les jours que vous avez ça. Donc, c'est vrai qu'on peut pas prévoir tout avant. C'est impossible, ça. Donc, il faut trouver l'attitude chrétienne adéquate dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on a dit cet après-midi qu'il faut prier dans un premier temps, prier pour la personne qui est là. Et puis ensuite, il faut, si on peut, lui parler. Bon, devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas l'idéal, mais on peut quand même le faire, si pour lui demander ce qui ne va pas, et prier avec elle pour le confier au Seigneur. Bon, voilà. Enfin, c'est des choses très simples en soi. Et puis après, si vraiment ça trouble, ben, il faut trouver la solution. Mais je n'ai pas la solution comme ça, la main, moi. Voilà. Mais il faut... vraiment s'adapter à la situation, prier, et voilà. Mais il ne faut pas se scandaliser, parce que c'est normal que dans un lieu comme ça, des gens puissent se trouver refuge, voilà, et pendre leur cœur, quoi, de façon sensible, quoi. C'est pas interdit, quoi. On ne peut pas faire des interdictions strictes, voilà.